ambiance soleil. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour Samedi Souvenir. Et n'oubliez pas, si vous aimez la chanson française, eh bien, je vous retrouve avec la Miss Chantal dès demain matin, dès 9h jusqu'à midi pour Dimanche Bonheur. Je vous laisse et je vous dis tout simplement à demain pour Dimanche Bonheur avec Chantal. Salut, bon après-midi à l'écoute des 101.5 de Radio G et à demain. Bye bye, à tout de suite pour les mix.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Nous sommes entrés dans une période noire de l'enseignement et de la fabrication de l'histoire. Nous entrons, si rien ne vient se mettre à la traverse, dans une période épouvantable. L'histoire ne sera pas épargnée. Ça craque de partout. Les carrières sont bouchées. On a une jeunesse dont on perçoit qu'elle va être différente de la génération de ses parents. Les jeunes sont dans une situation objective qui va les rendre moins perméables à la pression. On est dans la situation où on a été autrefois, d'une histoire qui risque d'être dangereuse parce que les historiens risquent de ruer dans les brancards. Il n'y a plus qu'une solution, faut fermer l'eau.
En éclairant le passé, les historiens qui font correctement leur travail nous aident à mieux comprendre le présent. Et pour travailler, les chercheurs en histoire ont besoin d'archives de diverses provenances. Archives qui, croisées entre elles, permettent d'établir des faits. Des événements passés dont l'histoire est parfois très dérangeante pour les riches qui gouvernent la France depuis plus de 2 siècles. Or, en 2021, des archives pourtant récemment ouvertes aux chercheurs se sont officieusement et illégalement refermées, rendues impossibles d'accès. Le pouvoir macronien empêche les historiens de faire leur travail, et ce dans le but évident d'empêcher les gens de comprendre notre histoire récente et donc de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. À nouveau impossible à consulter. Citons notamment des archives s'étalant des années 1930 à 1960, des archives établissant des faits honteux pour l'oligarchie française d'hier et donc d'aujourd'hui. Entre collaboration avec les fascismes de l'Europe des années 30, jusqu'aux guerres et magouilles coloniales, de la guerre d'Algérie à la France-Afrique, en passant par le Rwanda, sans parler de ce qui se passe actuellement au Sahel et au Tchad. L'impossibilité pour les historiens d'accéder aux archives, on en parle aujourd'hui avec 2 enseignants. Dans quelques instants, notre ami André, le prof d'histoire géo, reviendra sur le génocide du Rwanda de 1994. Crime de masse et contre l'humanité dont le président Mitterrand a rendu la France complice et actrice. Mais comment comprendre cette horreur avec des archives inconsultables ? Et en deuxième partie d'émission, l'historienne Annie Lacroix-Risse expliquera comment s'opère cette interdiction d'accès aux archives, insidieuse, arbitraire, illégale et effective. L'objectif pour les brigands qui nous gouvernent, nous priver de passé pour mieux contrôler notre présent, faire de nous des gens sans avenir.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte.
Salut, c'est JBD, c'est la voix off, spéciales archives interdites. Salut André.
Bonjour à tous.
Dans le Monde diplomatique de mai 2021, cet article du chercheur François Granet, dans le cadre d'un dossier, Rwanda, lumière sur un génocide, en France, des archives bien gardées. Coup sur coup, au mois de mars et avril dernier, deux rapports, celui dirigé par l'historien Vincent Duclair à la demande de l'Élysée et celui d'un cabinet d'avocats américain commandé par Kigali, ont établi la responsabilité écrasante de la France et de François Mitterrand dans le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, tout en écartant les accusations de complicité. Cette convergence inédite reflète-t-elle la vérité historique ou un simple arrangement politique entre les deux pays ? En France, le contrôle de l'accès aux archives entrave le travail des chercheurs. La Belgique, ancienne puissance coloniale qui a attisé les haines, se montre plus libérale. Mais le génocide de 1994 hante également les consciences africaines. Ces dernières phrases faisant référence donc à divers articles de ce dossier autour des archives. Et finalement, André, on en parle depuis qu'on fait de la radio ensemble, de la fabrique de l'écriture et surtout de la diffusion ou de la non-diffusion de notre histoire.
Oui, alors c'est un événement récent dont on va parler aujourd'hui, le massacre des populations tutsis au Rwanda. En 1994, entre avril et juillet 1994, on pense 800 000 personnes, hommes, femmes, enfants, ont été massacrées dans des conditions absolument atroces par des Hutus, c'est-à-dire l'autre partie de la population rwandaise, souvent de façon très artisanale, on veut dire, à machette et à la hache, enfin bref, ça a été un massacre, mais enfin 800 000 personnes. Donc ce dont nous allons parler, c'est pas d'un petit coup d'État ou d'un petit coup de force militaire. C'est un authentique génocide, puisqu'il était destiné à supprimer les populations tutsis de ce petit pays d'Afrique centrale. Alors, il y a deux petits pays, le Rwanda et le Burundi, qui sont à côté des Grands Lacs, à côté de l'Ouganda. Ces deux petits pays ont été brièvement des colonies allemandes, et à la suite de la guerre 14-18, la SDN a donné mandat à la Belgique sur ces pays. La Belgique est devenue le pays colonisateur à la place de l'Allemagne. Et donc, ils sont restés le pays colonisateur jusqu'à l'indépendance dans les années 1962, à peu près. Voilà. Et bien sûr, la Belgique, comme pays colonisateur, porte une grosse responsabilité sur la situation dont a résulté le massacre de 1994. Les deux articles qui sont sur Le Monde diplomatique, donc de mai 2021, portent sur deux sujets. D'abord sur l'événement lui-même, comment ça s'est passé, et qui porte la responsabilité de cet atroce événement. Et le deuxième problème, c'est aujourd'hui, comment faire la lumière sur cet événement, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'avoir des archives, est-ce qu'il est possible d'accéder aux archives. Or, il semble bien que non, ou du moins de façon très difficile, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il y a un sous-titre, en France, des archives bien gardées. Qui fut responsable de ce massacre ? Le rôle de la Belgique est assez bien montré, le rôle historique de la Belgique, dans l'article du Monde diplomatique. C'est d'ailleurs une femme belge, l'auteur de cet article. Et la Belgique, quoique ayant de grosses responsabilités historiques sur l'événement, a fait à peu près la lumière sur cet événement. Mais sur ce qui s'est passé entre, on va dire, 1990 et 1994, là, ça pose déjà un problème. Alors, qui était au pouvoir en France en 1990 ? C'était François Mitterrand. Et en 1994, au moment du massacre. Et la France a forcément joué un rôle là-dedans, puisqu'il y avait des militaires français. Dès 1994, il y a des militaires français qui sont à la manœuvre au Rwanda. Ça pose d'ailleurs le problème de la façon dont le pouvoir mitterrandien a géré les affaires africaines. Alors, je rappelle rapidement que la France, à partir de 1958, de Gaulle, va mener une politique africaine très particulière, qu'on a baptisée par la suite la France-Afrique. C'est-à-dire que la France, tout en se désengageant de ces pays-là, en leur accordant l'indépendance, elle est restée présente en Afrique, et très très présente, puisque les affaires africaines ont été menées par des gens comme Focard, le sinistre Focard. En fait, ça dépendait de l'Élysée. Les affaires africaines
n'était pas décidé par le gouvernement français, ni même par le ministre des Affaires étrangères, très, très secondairement. En fait, c'était les Affaires africaines, c'était un département qui dépendait de l'Élysée, un peu comme la force de frappe, en quelque sorte, un domaine réservé à l'Élysée. Et la France, à partir de 58, a joué un rôle très important dans le destin politique de ces pays, anciennes colonies françaises. La France y a organisé des coups d'État, des coups de force, y a destitué des dirigeants, en a remis d'autres à la place, etc. Créé une situation de néocolonialisme, colonialisme qui ne disait pas son nom, sous le couvert d'État apparemment indépendants, qui avaient leur drapeau, leur hymne, leur constitution, leur gouvernement. Les intérêts français étaient défendus. Les intérêts militaires, géopolitiques, économiques français étaient défendus par des gouvernements favorables aux intérêts français. Ça s'est traduit d'ailleurs par des événements extrêmement sanglants, des événements extrêmement brutaux au Cameroun et ailleurs, etc. Et la France est restée présente militairement, économiquement dans ces pays-là. La France s'est glissé dans le rôle du néocolonisateur, alors à la place des Belges en quelque sorte. La France s'est arrangée pour avoir des dirigeants qui étaient favorables à sa politique. Alors le problème, c'est que dans ce petit pays, le Rwanda, il y a eu un problème créé par le colonisateur belge de conflit, de heurts entre les Tutsis et les Hutus. Alors, les colonisateurs belges, pour assurer leur domination, ont favorisé les Tutsis. Ils en ont fait une sorte d'aristocratie, en quelque sorte, au détriment des populations Hutus. Hein. Ils ont, de façon très artificielle, décidé qu'il y avait deux populations, deux ethnies au Rwanda, les Tutsis et les Hutus. C'était les Tutsis qui avaient toute leur attention, en quelque sorte, et les Hutus étaient un peu relégués dans une sorte de citoyenneté de deuxième zone, etc. Bon. Mais à un moment donné, bien sûr, la population Hutu s'est rebellée contre ce qu'elle considérait comme une domination des Tutsis, etc. Et ça s'est traduit dans des luttes politiques. Les Hutus ont fini par parvenir au pouvoir et beaucoup de Tutsis se sont réfugiés dans le pays voisin, l'Ouganda. Et les Tutsis ont formé des sortes de milices et ont poussé en quelque sorte à la guerre avec l'Ouganda. Alors le principal dirigeant Hutu qui était favorisé par les Français en Rwanda s'appelait Juvénal Habyarimana, donc menacé par la rébellion du Front Patriotique Rwandais dirigé par des Tutsis. Et alors dans ce conflit, la France a décidé, enfin la politique africaine française a décidé que le candidat à soutenir, c'était Habyarimana, contre la rébellion du Front Patriotique Rwandais, etc. Et l'Élysée décide donc, sans aucune consultation du Parlement ou du gouvernement, décide de soutenir ce régime Hutu de Habyarimana dans ce conflit. Dès 1993, les accusations deviennent un peu public, et donc l'Élysée et l'état-major rwandais allument des contre-feux médiatiques. C'est un aspect qui est soulevé par l'article et qui me semble intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Élysée a besoin d'avoir un soutien de l'opinion publique dans une politique très contestable dans les affaires africaines, et on mobilise en quelque sorte les médias, ou une bonne partie des médias, pour diffuser un récit simplificateur. Les bons sont les Hutus, ils sont attaqués par des vilains Tutsis qui sont soutenus en sous-main par les anglo-saxons, donc on soutient notre candidat. Le problème, c'est que dans le Rwanda se développe un véritable racisme anti-Tutsi, et des milices se forment, et qui, dès 1990, ont un discours pour menacer de massacrer les Tutsis. Et d'ailleurs, il y a eu auparavant déjà des massacres de Tutsis, avant 1994. Donc, les gens qui représentent la France au Rwanda, les militaires, les fonctionnaires, l'Élysée, ne peuvent ignorer ce danger de guerre civile et de massacre au Rwanda. Malgré tout, ils vont s'obstiner dans cette politique de soutien à Habyarimana. Alors les choses vont se gâter lorsque l'avion présidentiel explose en l'air. On ne sait d'ailleurs pas qui a envoyé la fusée qui a descendu l'avion présidentiel. Donc une véritable guerre civile interethnique se développe qui va aboutir au massacre. Et dans l'histoire, la France a sa responsabilité engagée puisqu'elle a des militaires sur place. Alors l'article sur les responsabilités de la Belgique pointe aussi les responsabilités de l'ONU. 500 pauvres militaires belges sous-armés sont là pour, qui vont d'ailleurs s'en aller juste avant le massacre. Les casques bleus belges vont plier bagages, laisser le pays au massacre sanglant. Et là, la France, que fait-elle? La France, rien. Rien, et il semble bien même qu'en sous-main, la France ait aidé les milices hutus.
Dans ce crime contre l'humanité, la responsabilité de la France sous Mitterrand est écrasante. Notons que dans ce génocide, la guerre psychologique a joué un rôle majeur. Et depuis les guerres d'Indochine et d'Algérie, la guerre psychologique est une spécialité de l'armée française dont le savoir-faire en ce domaine a notamment servi dans les années 70 à des régimes fascistes d'Amérique du Sud. Dans l'apocalypse rwandaise de 94, les Hutus avaient à leur disposition la sinistre radio des Mille Collines.
Vous écoutez la radio-télévision libre des Mille Collines dans notre blindé, dont nous sommes obligés désormais d'émettre.
Rouage de ce crime de masse, radio de proximité inspirée d'un modèle français de radio locale d'État. Car la radio locale d'État, c'est aussi un savoir-faire français, aujourd'hui de couleur bleue.
Vous écoutez la radio-télévision libre des Mille Collines dans le blindé de la RTBF. Nous sommes là pour vous, chers amis auditeurs, à votre service. Pendant la guerre, nous ne vous abandonnons pas. Nous continuons de combattre à côté de vous. Nous saluons une fois de plus la bravoure de nos forces armées rwandaises. Et il faut dire, concernant l'évolution sur le terrain des opérations, que la colline de Rébéron a été complètement libérée et toute présence d'Inzi n'est plus signalée à Rébéron. Félicitations une fois de plus aux forces armées rwandaises. C'est dire que la grande partie de la ville de Kigali a retrouvé son calme. Reste certaines périphéries qui doivent être nettoyées sérieusement par les forces armées rwandaises à l'aide de la population. Bravo !
Comment savoir exactement quel a été le niveau de responsabilité en France? Qui a donné les ordres? Parce qu'il y a bien sûr des militaires français qui ont protesté contre cette chose-là. Dès 1993, la France renvoie dans leur foyer les militaires français qui ont eu l'air de contester la politique française au Rwanda, etc. Et met à la place des gens qui sont dévoués à la politique élysienne. Comment savoir la vérité? C'est extrêmement difficile, parce que les archives ne sont pas ouvertes. Il y a un code du patrimoine, article L213-4, etc., empêche l'ouverture des archives. Les archives dépendent en fait de l'exécutif, pendant 25 ans. C'est le cas par exemple des archives de Mitterrand. Les archives de Mitterrand, elles ne sont pas accessibles. Il y a des milliers de pièces auxquelles les chercheurs ne peuvent pas accéder. Alors bien sûr, il y a des dérogations. Plein de dérogations qui vont être accordées, mais c'est selon le bon vouloir exécutif lui-même. Alors, certaines pièces vont être déclassifiées. On pense qu'il y a à peu près plus de 20 mètres linéaires d'archives qui concernent cette affaire du Rwanda, soit des affaires étrangères, soit de la défense, etc. Alors, il existe aussi en France ce qu'on appelle le secret défense. Secret défense, vous n'avez pas le droit d'accéder aux archives, aux pièces, des correspondances, des rapports, etc., qui sont essentiels pour la compréhension du système. Alors, le juge Trévidic, par exemple, qui a été à un moment donné saisi de cette affaire rwandaise, dit que les pièces déclassifiées, c'est une bibliothèque rose. En fait, on a déclassifié des pièces qui mangeaient pas de pain, qui avaient pas beaucoup d'importance, etc. Alors, il y a eu ces deux rapports, ils ont eu accès à un certain nombre de pièces, mais pas toutes. certaines pièces ne sont pas accessibles. Il y a même eu une mission d'information parlementaire, hein. Pas une commission d'enquête. Il aurait fallu que ça soit une commission d'enquête. Il n'y a pas eu de commission d'enquête. Mais enfin, le Parlement a été saisi. Il y a eu une mission parlementaire. Mais cette mission, d'abord, premièrement, elle s'est auto-censurée. Un certain nombre de gens n'ont pas été interrogés. Les militaires au plus haut niveau n'ont pas été interrogés par cette mission. Et quand ils ont été interrogés, eh bien, les résultats de ces interrogatoires n'ont pas été communiqués aux chercheurs. Comment comprendre l'attitude des autorités françaises? Ça va être très très difficile. Pour l'instant, nous n'avons pas le mot de tout. On sait que la responsabilité de la France est accablante. Tout à fait accablante. Ça, c'est absolument certain. La politique étrangère de l'Élysée, hein, de Mitterrand, a été une véritable honte quand on sait que ça a abouti à un massacre de 800 000 personnes, 800 000 civils. Ça laisse quand même sans voix. Hein. C'est pas rien quand même. Pour cette affaire aussi grave, c'est un peu le silence. D'après l'article, le premier journaliste à s'être vraiment, enfin, avoir fait un article gênant, c'est en 98, un article dans le Figaro qui a dénoncé la responsabilité de la France. Et c'est à la suite d'ailleurs de cet article qu'il y a eu la mission d'information parlementaire. Mais à quoi ça aboutit? Est-ce que ça aboutit à une lumière complète? Non. Il faudrait pour ça que toutes les archives soit accessible. Et il ne faut pas croire que c'est pareil dans tous les pays. Hein. Les pays comme l'Angleterre, par exemple, hein, les archives, au plus haut niveau, les archives sont accessibles. Les archives de Downing Street, c'est-à-dire du gouvernement anglais, sont accessibles presque immédiatement et elles peuvent être publiées. Et bien d'autres pays aussi où il n'y a pas ce secret. En fait, on a l'impression que le secret des archives comme ça, c'est l'héritage de l'époque de De Gaulle. Hein. L'époque de De Gaulle, c'est quand même une époque de gouvernement secret, de politique secrète. Hein? Alors, je ne veux pas faire de peine aux gens qui sont tous les matins en train de dénoncer le complotisme, mais quand même, l'histoire secrète de la Ve République, c'est plutôt riche. Hein? En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que Mitterrand, une fois au pouvoir, alors qu'il avait promis qu'on romprait avec la politique africaine, la politique du secret, la politique personnelle, etc., ben il a fait exactement la même chose que De Gaulle. Exactement la même chose que De Gaulle. C'est-à-dire qu'il s'est attribué un certain nombre de questions. Et on ne discute pas, et on ne consulte pas ni son Parlement, ni même son gouvernement à certains problèmes, parce que d'après l'article, le gouvernement français n'a pas été dans sa totalité, en tout cas, consulté sur l'affaire du Rwanda. C'est-à-dire qu'on a engagé la France, la politique française, l'armée française, dans une opération qui aboutit à ce désastre, sans qu'il y ait eu une consultation des élus, du Parlement, un truc comme ça. Ça laisse à penser sur la démocratie, y compris sous le régime mitterrandien. Ça, c'est digne d'un régime de pouvoir personnel.
Oui, c'est le monarque présidentiel voulu par la constitution de De Gaulle de 58, qui a aussi d'ailleurs permis à Sarkozy de lancer une guerre contre la Libye sans rien consulter, ni personne, ni parlement, ni rien du tout. La France s'est retrouvée en guerre contre la Libye comme ça parce que le président monarque français l'avait décidé.
Bien sûr.
On parlait de France-Afrique, donc initiée par De Gaulle, dont l'exécuteur de cette France-Afrique, c'était donc le sinistre Jacques Faucard, dont le bureau était contigu à celui de De Gaulle à l'Élysée. Et évidemment, quand Mitterrand arrive au pouvoir, Faucard est dégagé. Et Mitterrand, à la place, met son fils Jean-Christophe. Jean-Christophe Mitterrand a été son Faucard à Mitterrand. Les Africains l'avaient surnommé Papa Madi.
C'est un peu rigolo, enfin, sauf quand ça concerne évidemment 800 000 morts.
Voilà. En 86, la droite revient au pouvoir avec les législatives et on redemande à Faucard de reprendre du service. Bon, il est un petit peu usé, mais il a toujours son carnet d'adresse.
À propos de cette affaire rwandaise, Mitterrand avait son gendarme particulier, hein, le fameux Baril, officier de gendarmerie. Ce Baril en question, qu'on n'a jamais interrogé, qui n'a jamais été interrogé, mais qui a trempé dans l'affaire rwandaise, eh bien, ensuite, après, il est devenu mercenaire. Vous avez remarqué les mœurs, c'est intéressant quand même, hein, c'est des mœurs de banditisme politique. Bon, voilà, Paul Baril il s'appelait, voilà, il n'a pas été convoqué par la mission d'information alors qu'il avait certainement joué un rôle important. Alors c'était des audiences à huis clos d'ailleurs pour la mission d'information du Parlement. C'est assez extraordinaire cette affaire rwandaise, elle est tragique, elle est épouvantable au sens propre du terme. On est épouvanté par ce qui s'est passé. Je suis également épouvanté par le silence, ensuite après, qui s'est abattu sur ce truc-là. Le relatif silence, si ça. Vous imaginez qu'il soit passé un truc comme ça, seulement avec 2000 morts ailleurs, on en aurait fait une histoire invraisemblable. Là, il y a eu ces 800 000. Alors bon, ce n'était que des Rwandais. Alors, on en a un. Bon, on ne peut pas parler beaucoup. Hein. Ouais, cela dit, hein, je voudrais quand même non pas dégager la responsabilité de ces salauds-là, mais quand même, en Indonésie, en 1965, il y a eu un coup d'État fomenté par les États-Unis, qui ne voulaient pas avoir dans leur dos, pendant la guerre du Vietnam, un pays hostile. Donc, ils ont abattu des faits le pouvoir indonésien, celui de Sukarno, hein, qui datait de l'indépendance de l'Indonésie, qui était une colonie hollandaise. Hein. Et en 65, donc, ce coup d'État de Suharto, qui est un militaire, dirigé par les services secrets américains, a fait quelque chose comme 500 000 morts, 700 000 morts, on ne sait pas très bien. Certains disent 1 million, un bain de sang, un véritable bain de sang. Noam Chomsky a fait un livre qui s'appelle L'archipel du bain de sang, qu'il mettait en relation avec l'archipel du Goulag, parce qu'à l'époque, il y avait l'archipel du Goulag et l'archipel du bain de sang, on n'en parle pas. On parle de l'archipel du Goulag. Non pas qu'il niait l'existence du Goulag ou qu'il en justifiait l'existence, mais il disait, mais pourquoi faire tant de pataquès sur le Goulag qui n'existe plus, alors que la presse américaine s'est tue sur cet énorme massacre d'Indonésiens. Alors, je précise quand même, hein, c'était des Indonésiens qui étaient accusés d'être des communistes. donc c'est pas grave, hein, on peut les tuer, hein, c'est des méchants. Hein. C'est vous dire qu'en fin de compte, la question que pose cet article, en fin de compte, c'est l'information qui est faite sur les événements et quelquefois les événements les plus récents. Alors, ça laisse à penser sur l'honnêteté de l'information historique qu'on nous délivre sur des événements plus anciens comme le pacte germano-soviétique, sur Munich, sur etc., etc., c'est-à-dire tous ces événements, etc. Quelle lumière historique. En fait, la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a qu'une chose vraiment intangible, ce sont les archives. Ce sont les archives, ce sont les documents écrits qu'on croise, il en faut plusieurs, qu'on croise, qu'on analyse, et qui peuvent nous donner quand même une idée de ce qui s'est passé, parce que on ne peut pas tout cacher, les documents écrits existent, nous sommes dans une société du document écrit, et il y a des témoignages aussi. Or, j'ai l'impression que le système fonctionne aujourd'hui, et depuis pas mal d'années, sur le silence, et sur une quantité de verrous, avec des complicités, il y a des complicités, y compris dans les conservateurs d'archives, y compris dans ces gens qui sont responsables et qui savent trier, filtrer, cacher, détruire éventuellement des archives. Je sais, l'accusation est grave, mais moi je pense qu'il y a une action concertée. On ne va pas parler de complot, hein. Je sais que l'opinion est extrêmement sensible là-dessus, mais on va dire une action concertée de façon à ce qu'on ne fasse pas la vérité sur ce qui se passe réellement. Et malheureusement pour les Rwandais. Ce qu'on peut également regretter, c'est le relatif silence des élites et des intellectuels africains là-dessus. Que disent ces gens-là? Est-ce qu'il n'y a pas complicité entre certains intellectuels africains et l'ancienne puissance coloniale française?
La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons. Et puis nos richesses. Et s'ils disent être surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es.
La suite.
suite de cette spéciale Archives interdites, c'est avec l'historienne et chercheuse Annie Lacroix-Riss, professeure émérite à l'Université Paris 7, qui va nous expliquer comment, en 2021, en toute illégalité, s'opère une officieuse mais réelle impossibilité d'accès à des archives encore consultables il y a peu. Ça chauffe aux fesses du pouvoir macronien qui a bien compris que les Français sont furieux. Et parmi les mécontents, de jeunes historiens sans perspective d'avenir et très très en colère. De jeunes chercheurs qui seraient bien capables de farfouiller dans les archives pour y trouver les traces de méfaits de la bourgeoisie française, des faits honteux et peu connus. Héritier du pouvoir d'hier, le pouvoir d'aujourd'hui ne prend pas de risques et rend les archives inaccessibles. Une population qui ne sait pas d'où elle vient, ne sait pas où elle va, Annie Lacroix-Riss. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Annie Lacroix-Riss, au moment où nous enregistrons en 2021, des fonds d'archives récemment ouverts et qui étaient encore consultables il y a peu, sont redevenus inaccessibles. Alors concrètement, comment est-ce que cette interdiction, qui ne dit pas son nom, s'applique-t-elle ?
Le problème du complément apporté de manière non officielle d'abord à la loi d'archives de 2008 qui a reposé un certain nombre de principes, qui est d'ailleurs revenu sur la loi de 1979 qui prévoyait une prescription trentenaire. Là, on est à une prescription cinquantenaire, très large. Et là, à l'occasion de toute une série de dossiers coloniaux en particulier, d'une part relatif à la guerre d'Algérie, d'autre part relatif au traitement du rôle de la France dans le génocide des Tutsis du Rwanda, on est passé d'une promesse présidentielle d'amélioration de l'accès aux archives. Il s'agissait d'une promesse faite à la veuve de Maurice Audin et par là même d'ailleurs au comité Audin.
Maurice Audin, jeune militant communiste assassiné par l'armée française en 1957 pendant la guerre d'Algérie. L'armée a toujours nié sa responsabilité dans ce meurtre. Il doit exister des archives militaires sur cette affaire Audin, inaccessible aux chercheurs, malgré les promesses du pouvoir.
Il s'agissait d'une promesse de faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat par l'armée et sur mandat de Maurice Audin. À partir de 2019-2020, en fait d'ouverture des archives, on est passé à une position des autorités de tutelle des archives de fermeture, puisque le blocage se fait de la manière suivante. Les documents demandés à l'intérieur d'un fonds d'archives demandé doivent faire l'objet d'une relecture sourcilleuse par les fonctionnaires d'archives, par les archivistes conservateurs. Ça induit une procédure tellement longue que ça ferme les archives. Si on passe d'une loi qui indique une limite claire de date, c'est-à-dire 50 ans de distance pour les fonds publics, administration, ministère, etc. Si on passe à une situation où ces fonds requis, compte tenu des effectifs au surplus, font l'objet d'une relecture systématique, ça veut dire qu'on n'a plus accès aux archives. Sur quels critères ? Qui aura quoi ? Est-ce qu'on sera dans une situation qui était celle décrite en 1994 par Sonia Combes quand elle a fait son ouvrage à grand retentissement, Archives interdites ? Parce qu'il est incontestable que cet ouvrage a eu pour conséquence une accélération de l'ouverture des archives relatives à la Deuxième Guerre mondiale. On retombe dans le dispositif qu'elle dénonçait, le risque que s'il y a accès aux archives, cet accès aux archives soit réservé à des historiens en lesquels on a confiance et qui ne réservent pas de mauvaises surprises. C'est une nouvelle catastrophique pour l'ouverture d'archives. Avant la loi de 2008, il y a eu toute une série de tentatives de ce genre. Il y avait en particulier un projet qui était de porter la limite à 75 ans. C'était monstrueux. On passait de 30 ans à 75, sauf que les 30 ans, on ne les avait pas appliqués, qu'évidemment, on réglait les choses par la procédure de la dérogation particulière. Elle était accordée ou elle n'était pas accordée. Au début des années 80, j'avais fait l'objet d'une autorisation nominale sur des fonds de l'après-libération qui incluait des fonds d'occupation. J'avais eu une autorisation nominale dans le cadre d'un colloque. On était plusieurs à avoir obtenu une autorisation nominale révocable. C'est-à-dire que quand, en rédigeant des livres, en m'intéressant de plus en plus à l'occupation elle-même, à la période d'occupation elle-même, à la période qui l'avait précédée, quand dans les années 90, je crois, plus de 15 ans plus tard, quand j'ai redemandé les fonds que j'avais vus, il a fallu que je compte sur une très sympathique conservatrice des Archives nationales qui a mis 3 mois à m'obtenir la communication de dossiers que j'avais consultés, dépouillés en 1983. Donc là, on entre incontestablement dans le domaine total de l'arbitraire. L'arbitraire, il a beaucoup régné dans les archives, mais il se trouve que ça doit être en 2013-2014. Je pense que les Archives nationales ont redouté un scandale de communication. J'ai fait accorder aux chercheurs dans l'ensemble des Archives nationales un régime unique, si je puis dire, parce qu'il y avait tel chercheur qui, en raison d'un privilège qui lui avait été accordé par le second personnage des Archives nationales, non seulement avait accès à des dossiers interdits à tout le monde, mais avait eu l'autorisation de consulter ces dossiers au vu et au su de tout le monde, parce qu'il était sur la table marquée rouge, c'est-à-dire les documents interdits de photos, etc. Il photographiait et il scannait des documents de communication interdits, des documents originaux, hein, des documents des années 40, scannés avec un appareil portable, alors que la quasi-totalité des chercheurs, quand ils avaient accès aux dix documents, étaient obligés de les regarder sous forme de microfilms absolument pourris. Moi, j'ai passé un an, 2011-2012, sur le fond Le Hideux.
François Le Hideux, industriel, homme politique et gendre du gros collabo Louis Renault, celui des voitures. Le Hideux était lui-même fasciste, vichiste et important collaborateur des nazis.
Je n'ai consulté à l'époque aucun papier. Et donc, j'ai écrit à la chef des Archives nationales, j'ai fait un scandale, parce que ça se produisait en plus à un moment où le chercheur en question qui fait le travail pour Jean-Marc Berrière venait de sortir avec Jean-Marc Berrière un ouvrage absolument scandaleux sur les crimes de la Résistance et de la Libération de Paris, en accordant des interviews à la presse d'extrême droite.
Jean-Marc Berlière, historien de la police française, qui estime notamment que cette dernière s'est plutôt bien conduite pendant l'occupation nazie, et par contre que les résistants, eux, n'étaient pas si vertueux que ça.
Et il expliquait que les résistants communistes n'étaient pas des résistants, mais que c'était des petits soldats au service de Staline. Métèque en plus, il disait pas métèque, mais à part métèque, il y avait tout. Hein. Et donc moi j'ai envoyé une lettre officielle en disant que vous accordiez les documents à tout le monde, pas de problème pour moi, hein, que vous accordiez exclusivement des documents à des gens qui, ayant bénéficié des fonds des Archives nationales, accordent des interviews, et je citais, sachant que tout de même les Archives nationales disposent d'un rôle qui est aussi un rôle civique, expliquez-moi pourquoi les Archives nationales accordent ce bénéfice. Ça avait fait un cirque, parce que la personne qui accueillait le public, particulièrement haineuse à mon égard. Elle prévenait le personnel contre moi, elle expliquait enfin qu'il fallait me faire toutes les difficultés. Le personnel était plutôt sympathique avec moi, me voyait souvent, on avait de très bonnes relations et par conséquent, je l'ai su. Et donc cette bonne dame que j'étais allée voir, et je lui ai dit, mais madame, comment expliquez-vous que vous ayez là un chercheur qui dispose de droits dont personne ne dispose ? Alors elle l'avait pris de très haut et elle me dit « Oui, mais vous, vous êtes très engagé. » Je lui dis « Comment je suis très engagé ?» Mais je dis « La personne à qui vous avez accordé les droits, là, c'est le fils d'un milicien célèbre, grand médecin de la ministre, c'est une plaisanterie. » Elle me dit « C'est comme ça, c'est un privilège qui restera un privilège et ça ne se discute pas. » Ah, j'ai dit « Ah bon, ça ne se discute pas. » J'ai pris la plume, j'ai envoyé ma lettre. Je pense que les Archives nationales, la direction des Archives nationales a eu peur du scandale. C'est-à-dire qu'elle s'est dit que ça la fichait mal que quelqu'un qui produisait des interviews aussi scandaleuses, reproduites par toute la presse d'extrême droite, allait provoquer l'indignation des associations de résistance, d'anciens déportés. Il n'y en a plus beaucoup, mais elles ne sont plus puissantes. Mais ça aurait fait mauvais effet. J'ai eu une réponse immédiate. Le deuxième personnage des archives m'a fait venir. Il m'a fait la grande scène du 2, en me disant « Mais non, c'est pas du tout un privilège, il n'y a que lui qui a demandé, je vous assure. » Bon, mais je vous assure, Madame Lacroix-Risse, dans les mois à venir, nous allons réviser le règlement intérieur des archives. J'ai fini par douter, ça se passait fin 2013, mais dans les premiers mois de 2014, on a pu commencer largement à photographier, y compris des documents qu'on n'avait pas le droit de photographier. Donc on était parvenu, dans le cadre de la loi de 2008, avec ces petits correctifs sur la consultation d'archives, et je ne parle que des archives nationales, hein, parce que moi ça fait des années que je vis essentiellement aux archives nationales, qu'on était parvenu à une situation qui était infiniment plus favorable que ce qu'on avait connu dans les périodes où finalement on pouvait quasiment rien consulter, où seul les historiens bien en cours bénéficiaient d'un accès large. Et on est arrivé dans le cadre de commissions étatiques qui étaient supposées faire la lumière et dont on attendait qu'elles ne fissent pas la lumière, on est parvenu là, ces dernières années, à une situation qui représente une régression. Qui va être personne de confiance? Qui va bénéficier de l'accès des fonds? Combien de temps faudra-t-il attendre une revérification de l'ensemble du dossier par un conservateur ou une conservatrice archiviste, ça met les chercheurs dans une situation impossible. Toute une série de collègues qui, depuis 2021, se sont indignés très bruyamment de cette indéniable fermeture des archives, n'ont pas, dans l'intervalle, poussé leurs étudiants à travailler sur ces archives délicates, et eux-mêmes n'ont pas fait le travail qui aurait consisté à exploiter ce qui nous était accordé de droit. Moi, je considère que la consultation d'archives, elle doit être accordée aux citoyens français, comme les révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle ont conçu les archives nationales, publiques, ouvertes à tous les citoyens. Après, on juge du travail fait, il est bon, il est mauvais, il répond aux règles méthodologiques, il les viole, ça c'est autre chose. Moi, ça m'est égal que des non-historiens accèdent aux archives. Je m'en fiche.
Comment est-ce que cette impossibilité d'accès aux archives se manifeste-t-elle? C'est une loi?
Mais non, les nouvelles conditions, c'est une violation de la loi de 2008 qui elle-même revenait sur toute une série qui d'abord était fondamentalement une refonte de la loi d'archives, très généreuse mais pas appliquée, de 1979, je dis très généreuse parce que théoriquement c'était 30 ans. Mais il y avait tellement d'exceptions, notamment à 60 ans, pour des documents d'intérêt d'État. Il suffisait de proclamer n'importe quoi d'intérêt d'État pour évidemment passer déjà à 60 ans, et même violer les 60 ans. Sans compter les 100 ou les 110 ans pour les dossiers personnels, etc. Donc, la loi de 1979 n'avait pas été appliquée, honnêtement. La loi de 2008, cette loi des 50 ans, semblait établir quelque chose qui nous permettait non seulement d'éclairer l'avant-guerre et l'occupation, mais bien entendu, largement l'après-guerre. 50 ans, ça permettait d'aller à 68. En plus de liquider, je dirais, toute une série d'éléments relatifs aux guerres coloniales. Bon, ce qui se passe depuis 2020-2021, c'est une violation d'une mesure législative claire sur la loi d'archives de 2008.
Non, attendez, là, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Si cette interdiction n'est pas légale, elle se manifeste comment?
Par l'arbitraire de la tutelle laissée aux administrations détenantes originelles, c'est-à-dire celles qui communiquent les archives, d'exiger un recontrôle sur l'ensemble du dossier. C'est des dossiers parfois énormes d'ailleurs, hein, que quelqu'un s'en aille faire une petite visite à la salle de consultation des archives nationales de Pierrefitte, quel effectif d'archiviste conservateur est nécessaire pour aller contrôler le dossier. Je sais pas, moi je vais donner un exemple, parce que celui-là il a subi les ordres, les contre-ordres, je le comprends d'ailleurs, c'est un dossier très compromettant. Le dossier de Knochen.
Knochen, chef de la Gestapo en France occupée.
Le dossier papier, il est énorme, 20 cm, c'est un gros gros carton des archives nationales. Moi, on me donne une autorisation, une dérogation personnelle, on libère totalement en 2008, on revient dans les années suivantes sur l'autorisation générale. Il n'y a plus d'interdiction de photo, il y a interdiction de reproduction dans une publication. Là, on réentrait dans le domaine de l'arbitraire que théoriquement, la loi d'archives de 2008 empêchait. Là, non. Ça, c'est pour les archives nationales. Tous les ministères ne versent pas aux archives nationales. Les archives du ministère des Affaires étrangères ont un régime à elles. Les archives de l'armée ont un régime à elles, etc., etc. Et ça fait beaucoup quand même. Les archives nationales, c'est beaucoup. D'autant qu'il faut compter que les archives nationales comptent des fonds qui incluent des ministères qui eux-mêmes ne versent pas. Je pense par exemple à toute la circulation qui se fait entre le ministère de l'Intérieur qui verse, enfin il verse ce qu'il veut, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées qui a ses propres archives. On trouve aux archives nationales toute une série de courriers. Moi, j'en ai beaucoup consulté. Ça explique d'ailleurs que j'ai fini par renoncer à aller aux archives du Quai d'Orsay parce que j'avais tellement de masse aux archives nationales. On trouve aux archives nationales, évidemment, écho des archives d'autres ministères. Mais là, oui, on est entré à nouveau dans le régime d'arbitraire qui a caractérisé l'ouverture ou la fermeture des archives françaises pendant des décennies. Ces décennies que César, le grand archiviste qui avait en particulier classé les fonds de l'intérieur, classé les fonds de l'occupation et qui ne les communiquait pas, qui avait classé les fonds de l'intérieur d'avant l'occupation, ces fonds dont César me disait en 1976 qu'on ne pouvait pas les communiquer librement parce qu'il y avait eu tant de méfaits des gens importants contre les communistes et de gens importants qui étaient encore dotés de postes importants en 1976, qu'on ne pouvait pas les communiquer. On était sorti en bonne partie de ce régime d'arbitraire. Le fait du prince, le fait d'un président de la République doté de pouvoirs monarchiques est revenu sur une législation relativement claire qui faisait de la France un pays dans lequel on pouvait quand même largement consulter les archives et les archives de l'ensemble du XXe siècle jusqu'aux années 70. Et ça n'est plus le cas. Notamment parce que a donné prétexte à la fermeture le tapage qui s'est progressivement organisé sur des dossiers particulièrement difficiles de la France coloniale et des guerres coloniales.
En 2021, des historiens français ont commencé à protester contre cette censure sur les archives.
J'ai saisi, comme tout le monde, la question, donc à partir du début de 21, où quelqu'un que j'ai beaucoup rencontré dans l'opposition à mes travaux, à mes thèses, à mes ouvrages, Jean-Marc Berrière, spécialiste de l'histoire de la police, dont j'estime que c'est un historien officiel de la police, et je l'ai démontré dans mes livres, signale dans un journal de province qu'il y a une fermeture très préoccupante des archives. Je ne peux pas dire que j'ai bu du petit lait de l'idée de la fermeture des archives, mais j'ai bu du petit lait en voyant des collègues qui avaient clamé pendant 20 ans qu'il fallait renoncer au positivisme idiot des gens qui entassent les archives. Ça, c'était pour moi, hein, dans un débat auquel je n'étais pas invité, mais auquel j'étais présente, qui disait, moi, des archives, le plus intéressant, c'est pas ce qu'il y a dans les archives, c'est ce qu'on leur fait dire. Henri Rousseau a dit ça, d'ailleurs, en 95, dans une conférence avec Paxton, j'avais failli tomber de ma chaise. Bon, et alors de les voir tout d'un coup complètement mobilisés par les archives, moi j'ai trouvé ça trop mignon et sympa. Bon, ça s'est sérieusement aggravé, donc on est face à une opération verrouillage qui a succédé à une apparente reconnaissance par le président de la République de l'importance de la vérité historique avec la justice historique qui était supposée devoir être rendue, comité Audin, et on allait faire davantage encore la vérité sur la guerre d'Algérie et en particulier le tribut, non seulement évidemment des Algériens, mais je le rappelle quand même, des communistes français, hein, dont tous les pro-colonialistes ont ensuite, y compris parmi mes collègues, ont ensuite dénoncé les défaillances communistes à l'égard du soutien de la libération algérienne, etc. Bon, et puis en fait, tout s'est fermé. Il y a eu toute une série d'interventions, alors déchirantes. Je continuais à rigoler parce qu'il y a des signataires que je m'étais coltiné depuis quelques décennies qui expliquait que je faisais n'importe quoi. Il n'écrivait pas hein, avec les archives. Là, vraiment, j'ai quand même... On a de temps en temps des petites satisfactions idiotes, personnelles, mais bon, ça m'a fait assez plaisir. Et puis, je me suis rendu compte, évidemment, que c'était vrai. Et alors, pourquoi, en plus, ça coïncide avec un engagement de faire la vérité sur la guerre d'Algérie, voilà, sur l'assassinat de Maurice Audin. Sa pauvre femme, si je ne m'abuse, est décédée, il n'y a toujours rien, il n'y aura rien. Alors, quelle est mon interprétation ? L'accès aux archives, des années 90 à ces derniers temps, il y a eu un phénomène caractérisé d'une part par une ouverture incontestablement large des archives, après une situation de fermeture scandaleuse. Hein. Parce que, je le rappelle, Paxton, pour cet ouvrage considéré comme l'ouvrage fondateur sur Guichy, paru en France 1973, n'a eu accès à aucune archive française. Il a fait l'histoire de Vichy, moi qu'on attend vilipendé à une époque parce que je n'avais pas les archives allemandes, hein, que j'ai même été obligé d'apprendre l'allemand pour qu'ils arrêtent de me casser les pieds. Mes collègues, ils n'avaient jamais travaillé sur les fonds que moi j'avais ouverts. Bon, et donc, on est dans cette situation jusqu'aux années 80 de fermeture complète des archives, hein. Moi, quand je commence à travailler sur la Deuxième Guerre mondiale, après ma thèse, début des années 80, je bénéficie d'un accès nominal et provisoire aux archives qu'on m'ouvre dans le cadre d'un colloque. Après, c'est bien, on ne m'a plus ouvert d'archives dans ce cadre-là. De toute façon, je n'étais plus invité au colloque. Bon, c'est là que je découvre l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et je découvre, comme j'ai fait au fil des décennies, des choses encore plus atroces que celles que j'avais découvertes à l'occasion de la préparation de ma thèse. Bon, disons qu'entre 90 et 2008, les archives s'ouvrent. Mais à beaucoup d'égards, en France, ça ne sert à rien. Parce que quand on va y mettre les doigts, comme je l'ai fait, on ne récolte que des horions. On se fait accuser d'avoir traficoté les archives, de les couper, de faire des trucs incompréhensibles. Et vous avez des bouquins entiers qui sont faits, je pense à celui d'Olivier Dard, par exemple, sur le mythe de la synarchie.
La synarchie, groupement de grands industriels et financiers français qui, dès les années 20 et 30, complotent contre la République, avec un certain succès d'ailleurs, comme on le verra entre 40 et 44.
Il n'y a pas une source. Si d'ailleurs, il y en a une ou deux, mais dis pas ce qu'il y a dedans. Je pense en particulier à sa mention des archives W3 du volume 222 sur l'EI2 qui s'appelle, ça l'affiche mal, pour une chose qui n'existe pas, l'EI2 Synarchie. Il ne le dit même pas que ça s'appelle comme ça. Bon. Alors, elles sont ouvertes, mais on y va guère. Ou on y va à pas compter dans le cadre d'une terminologie, idéologie, le rejeu, le jeu, l'interprétation, enfin une horreur. On ne fait essentiellement que de l'idéologie. Ça s'est fait comme ça. Donc c'est vrai que les archives se sont ouvertes. Et elles ont d'ailleurs servi à l'étranger. Hein. Faut voir ce qui a été publié à l'étranger et qui n'est pas publié, qui n'est pas traduit chez nous. Il y en a du bon travail qui a été fait avec nos archives. Mais motus et bouche cousue. Bon. Depuis 21, c'est le blocage. Pourquoi ? Eh bien, à mon avis, pour une raison qui est imputable à la conjoncture. Ça craque de partout. Les carrières sont bouchées. on a une jeunesse dont on perçoit qu'elle va être différente de la génération de ses parents. Nous avons eu un trou dans le progressisme dans la génération de mes enfants. Nous allons combler ce trou, qu'on le veuille ou non. Les jeunes sont dans une situation objective qui va les rendre moins perméables à la pression. C'est-à-dire qu'on est dans la situation où on a été autrefois, d'une histoire qui risque d'être dangereuse parce que ses artisans, les historiens, risquent de ruer dans les brancards. Et ben dans ces conditions, il n'y a plus qu'une solution, il faut fermer le lot. C'est-à-dire que les jeunes
chercheurs en histoire
se trouvent dans la situation où sont sortis ceux de ma génération. J'ai souffert de mes collègues, mais je n'ai pas souffert de la fermeture des archives. Ils sont dans la situation qui ne durera pas, hein. Je veux dire que de toute façon nous sommes dans une situation instable où la recherche indépendante est en quelque sorte proclamée comme impossible. Voilà où nous en sommes. Un petit coin peut être éventuellement dégagé. Là, la commission officielle qui était très mal engagée sur l'affaire du Rwanda a pu quand même dire des vérités sur le Rwanda qui vont au-delà du rapport Stora sur l'Algérie que j'ai lu. Affligeant, je dis bien affligeant. Et le relatif tapage qui a accompagné l'affaire du Rwanda, parce que quelques chercheurs, quelques travailleurs indépendants ont pu mettre leur nez dans l'affaire et faire des articles, faire des interventions qui ont contraint la commission officielle d'abord à se débarrasser d'une chercheuse qui avait fait sur le Rwanda une notice dans un ouvrage financé par le ministère de la Guerre, ce qui est courant aujourd'hui, en expliquant qu'il y avait deux génocides, il faut quand même oser. Enfin bref, la commission a été prise dans un tel maelstrom que quand on regarde le dossier, il y a quand même des vérités qui sont dites. Mais on observera d'ailleurs que le responsable de la commission a été obligé de répéter, ce qui est complètement contradictoire avec le contenu de son rapport, qu'il n'y avait pas d'intention. Ben non, vous armez des génocidaires, vous leur donnez tous les moyens, vous ne protégez pas les génocidés, mais vous n'aviez pas d'intention du tout de participer à un génocide. Bon, hein, ça peut passer quand on regarde TF1 et qu'on lit la grande presse, n'importe quelle personne qui va aller jeter un œil sur le rapport qui est public et lire le compte-rendu des archives impitoyables sur l'affaire, il comprend bien que le minimum du responsable de la commission, c'était de dire qu'il n'y avait pas d'intention. Ça fait rigoler n'importe quel historien. On me dit, on s'en fiche si la population ne rigole pas. C'est l'objectif quand même, que la population ne rigole pas. Et comme en plus les États africains ont l'air raisonnables sur la question, tout passera. Mais à part ça, c'est le blackout. Nous entrons à nouveau dans une situation de blackout. Il est certain que les perspectives électorales, qu'il s'agisse de l'actuel président de la République ou qu'il s'agisse de la candidate qui soutient les putschistes qui interviennent pour fêter les 60 ans de la tentative de putsch d'Alger du 21 avril 1961, ne vont pas être favorables à l'ouverture des fonds. J'aurais eu la satisfaction purement intellectuelle de constater qu'une kyrielle de collègues qui n'avaient pas fait grand usage des archives impitoyables dont un certain nombre m'avait reproché de faire usage mal, bien sûr, mal, hein, que j'aurais eu cette satisfaction intellectuelle de voir ces collègues signer. Je n'ai pas été sollicité à l'origine. Je crois que j'ai signé quand même une pétition, parce que j'ai fini par signer, parce que qui est-ce qui peut être hostile à la protestation contre une fermeture d'archives? Sûrement pas moi. Mais voilà. Nous sommes entrés depuis longtemps dans une période noire de l'enseignement et de la fabrication d'histoire. Mais nous entrons, si rien ne vient se mettre à la traverse, dans une période épouvantable. L'histoire ne sera pas épargnée parce que l'histoire, notamment en France, est une discipline qui est si étroitement liée aux politiques que la perspective de voir accompagner à la frontière des immigrés passe aussi par la perspective de mesures de censure pure et simple, dont on peut dire que depuis le début de 2021, elle relève de la certitude.
C'est sur ces mots peu rassurants que se referme cette spéciale Archives interdites. Merci à André Lécole et à Annie Lacroix-Risse. Émission à réécouter sur notre site, tant qu'il n'est pas censuré. Polémix et la voix off.com. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Radio G. 101.5 FM. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope.